La Méridienne.
Amis de la Calade, bonjour. Nous voici repartis pour un nouvel épisode de Histoire de femmes, femmes d'histoire. À mes côtés,
Loïse.
Bonjour Loïse. Alors, de qui allons-nous parler aujourd'hui?
De Rosalind Franklin.
Ah, oh, c'est un très joli nom. Et qui est-elle, cette Rosalind Franklin?
Ouais.
Une femme qui a excellé dans quel domaine?
La science.
Les sciences, exactement. C'est peu de le dire. En fait, la petite Rosalind Franklin, elle naît le 25 juillet 1920 à Londres. Et elle voit le jour dans une famille plutôt bourgeoise où elle reçoit une éducation soignée. Et toute petite déjà, cette enfance se prédestine à... montre des prédispositions en sciences. Et elle s'intéresse beaucoup à la physique, à la chimie, enfin autant dire pas vraiment ce qui constitue une éducation bourgeoise au début du XXe siècle. Sa grand-mère va même dire d'elle qu'elle a une intelligence inquiétante. Je crois que ça peut être inquiétant toi, d'être intelligent ?
Non.
Pas vraiment, hein. Et donc, elle réussit ses études et elle va même d'ailleurs rentrer à l'âge de 18 ans dans un collège. Alors, un collège qui accepte les garçons, donc là on se dit...
Normalement, au collège, on n'a pas 18 ans.
Eh oui, à Londres, en fait, le mot collège peut désigner une école supérieure, après le bac, quand tu as fini ton collège et ton lycée, si on suit l'exemple français.
D'accord.
Et donc, dans ce collège, eh bien, on accepte quelques filles. Alors, je te rassure, hein, on ne va pas non plus leur dérouler le tapis rouge, hein. Elles sont quatre dans sa classe, et elles sont très régulièrement moquées, par leurs camarades, on leur lance des boulettes de papier, enfin on leur fait bien sentir qu'elles n'ont rien à faire là, et ça va même jusqu'au point que leurs enseignants ne leur revendiquent même pas de les appeler par leur prénom ou correctement, tout simplement par la mention madame ou mademoiselle, mais on les appelle monsieur, sur un principe d'égalité. Rassurant, non? Enfin, ça ne l'empêche pas de réussir. Et surtout, ça ne l'empêche pas de démarrer des recherches dans un contexte un peu particulier, parce que si vous avez bien suivi, elle est née en 1920, elle a 18 ans. En clair, qu'est-ce qui va démarrer? La Deuxième Guerre mondiale. Et durant cette période très troublée, eh bien, elle décide de consacrer ses recherches de fin d'études au charbon. C'est bizarre, non? Un peu du charbon, pourquoi faire? Eh bien, parce que tout simplement, c'est une matière première qui est très importante pour les masques à gaz. Donc elle pense avant toute chose à la protection des civils qui sont bombardés régulièrement. Et donc elle va se pencher sur à photographier cette matière première et à essayer de découvrir au mieux comment lutter contre les gaz toxiques. Donc c'est plutôt une fille bien, hein ? Malheureusement, c'est pas ce qui va ressortir des différents témoignages, alors je m'explique tout de suite, hein, de ses camarades de laboratoire, qui vont s'ingénier à mettre en avant un caractère acariâtre, hystérique, désagréable. En fait, en clair, c'est pas qu'elle a mauvais caractère, c'est qu'elle a du caractère tout court. Et puis surtout qu'elle ne souhaite pas qu'on l'appelle Monsieur Franklin comme son père, mais bien Madame Franklin. Elle a mauvais caractère, pourquoi? Bah parce que on lui vole systématiquement ses documents, elle ne peut pas travailler dans de bonnes conditions, et surtout elle est victime quand même d'un battage systématique de ses collègues de laboratoire. Est-ce que à sa place on ne réagirait pas pareil?
Ben si.
Probablement, nous sommes d'accord. Alors, le charbon, c'est bien, le charbon, elle prend des photos, elle va ensuite travailler, elle va passer des diplômes complémentaires et elle va devenir ce qu'on appelle cristallographe. C'est joli ça comme nom. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en fait, elle photographie, mais dans des matières, dans ce qu'elles ont de plus petit. Et en fait, c'est par le biais de ce travail qu'elle va s'intéresser aux cellules, et puis aux cellules de l'être humain, et puis, un beau jour, en fait, elle va finir par découvrir, par réussir à photographier quelque chose qui va révolutionner les sciences, à savoir l'ADN. Alors là, c'est une découverte majeure. Et est-ce que tu penses que cette découverte va lui rapporter célébrité et proposition dans des laboratoires? Eh bien, pas du tout. Puisqu'en fait, à cette époque, les personnes qui travaillent avec elle, donc ils sont plusieurs à travailler sur cet ADN, deux équipes notamment de scientifiques, qui se tire un petit peu un duel au premier qui réussira à découvrir ces photos. Et plus particulièrement, donc Francis Crick et James Dewey Watson sont vraiment les deux hommes qui vont se concurrencer dans cette course à la découverte de l'ADN. Sauf qu'en fait, eh bien, c'est compté sans Rosalind Franklin, qui, elle, est beaucoup plus, va passer des heures et des heures et des heures et des heures à toujours essayer de chercher le cliché le plus parfait. Et en fait, elle se rend compte que son tiroir et les résultats de ses recherches sont régulièrement fouillés jusqu'à ce qu'on lui vole le fameux cliché 51, le cliché donc qui met en évidence la structure en double hélice de cette ADN. Comment est-ce qu'on définirait l'ADN de façon simple? C'est tout simplement la cellule qui détermine en fait les caractères hérités de chaque être humain. Voilà. Si vous voulez faire un petit détour jeudi soir.
De chaque être humain de notre famille, plus précisément.
Et tous les êtres humains ont un ADN différent.
Oui.
Voilà. C'est comme une carte d'identité.
Oui.
Et donc. Reprenons. Et donc, Francis Crick, qui est son camarade de laboratoire, eh bien, lui pique toutes ces données. Elle s'en rend compte, mais ne peut rien faire, puisque immédiatement, ces scientifiques s'associent et vont publier dans la revue prestigieuse Nature le résultat de ces recherches. Et là, c'est trop tard, en fait, parce que à partir du moment où médiatiquement ces trois hommes ont été identifiés comme les découvreurs, eh bien, elle a beau crier à l'injustice, il n'y a personne pour l'écouter. Et personne ne l'écoute, au point que lorsque ces trois scientifiques en 1962 sont récompensés pour leur découverte par le prestigieux prix Nobel, eh bien, elle n'apparaît qu'à peine à la fin d'un discours de remerciement, qui est tout de suite commenté comme étant, de toute façon, ce n'était que l'assistante, elle n'a joué aucun rôle, de toute façon, trop mauvais caractère, blablabla. Et donc, il faut attendre, eh bien, 2003 pour que, en quelque sorte, son nom ressorte. Au détour d'un livre qui est publié toujours par ce fameux Francis Crick, qui va mettre en avant que effectivement Rosalind Franklin était son assistante, que bon ben quand même peut-être elle a fait permis d'avancer des recherches, etc. Mais à aucun moment il ne dit clairement que c'est elle qui a pris le cliché et c'est elle qui a aussi réfléchi et pensé à l'analyse de ce cliché. Voilà, donc en clair, c'est ce livre qui va attirer l'attention sur elle et qui va justement permettre de mener une enquête, une véritable enquête policière finalement, hein, qui va rétablir cette vérité. Et quelque part, on peut dire que Rosalind Franklin est un excellent exemple de ce qu'on appelle l'effet Matilda. Alors, on a déjà parlé de l'effet Matilda, je crois, Héloïse.
C'est quand il y a une femme qui fait une découverte et qui est volée par un homme ou plusieurs hommes.
Voilà, exactement. Bah, c'est une bonne définition, malheureusement, de ce qu'a vécu Rosalind Franklin, qui ne s'est pas laissée abattre après avoir été volée de son expérience et de ce cliché. En 1953, elle continue ses recherches sur les virus. Malheureusement, elle meurt en 1958, donc elle ne verra même pas le résultat de cette recherche, puisque elle est probablement décédée des suites de l'exposition aux rayons X, qui était nécessaire à cette époque. Il n'y avait pas de protection adéquate pour réaliser les clichés de cristallographie. Et donc, elle meurt d'un cancer des ovaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut avoir une petite pensée pour cette femme, qui est une figure, je trouve, inspirante pour toute petite fille qui s'intéresse aux sciences et qui n'a pas à se laisser impressionner par des garçons jaloux, finalement, et qui récupèrent le résultat de leurs travaux.
Travail.
De leur travail. Mais tu as raison, Louise. De leur travail. Et donc, en clair, quel message d'espoir on pourrait laisser? En tout cas, quel message un peu inspirant? Qu'il faut se battre? Un peu tous les jours?
Oui.
Voilà. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je vous souhaite une belle journée. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode.
À bientôt.
Calade. La Méridienne.